Bonjour à tous. Je voulais vous parler ce matin, j'avais un message, j'avais eu à cœur de l'intituler « Écrit dans le roc ». Voilà, c'est le thème, le titre du message que je voulais partager avec vous. Donc bah, écoutez, on va y aller. Hein. Donc il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion de parler de l'importance de rencontrer Dieu en prenant l'exemple de Moïse avec le buisson ardent et la rencontre de tout le peuple au mont Sinaï, donc le peuple de Dieu. Cette fois, j'aimerais analyser avec vous le contenu du message que Dieu a adressé à son peuple, les Israélites, et ensuite à tous les rachetés. Car il est important de rencontrer Dieu au travers de notre Seigneur Jésus-Christ, mais il me semble qu'il est tout aussi important de prendre soin du message lui-même qu'il nous a adressé. Revenons donc au mont Sinaï, au chapitre 22 de l'Exode, sur les 10 commandements. Mais avant de lire ce passage, voici quelques détails. Donc Moïse se trouve devant Dieu, en haut du mont Sinaï, afin de recevoir la loi. Tout le peuple était au pied du mont Sinaï, en feu, où Dieu s'adressait directement à Moïse. Il s'agissait de la première rencontre entre Dieu et les Israélites au complet. Les rencontres précédentes étaient plutôt individuelles, Abraham et la terre promise, la promesse de Dieu pour Abraham, Jacob et le rêve de l'échelle, etc. Mais cette fois-ci, on parle de plus d'un million d'êtres humains, et donc l'événement qui suit se passe devant témoins. Moïse parlant à Dieu. Je pense qu'une des raisons de cet ordre des événements est de démontrer que les informations qu'il va communiquer à Moïse ne seront jamais remises en cause. Plus d'un million de témoins de la discussion entre Moïse et Dieu. Également, le fait important concernant le chapitre 20 de l'Exode est que Dieu a directement écrit dans le roc les 10 commandements, les tables de la loi. C'est unique dans toute la Bible. La seule autre fois où Dieu a écrit sur terre était Jésus et la femme adultère. Et je pense que ce récit de la femme adultère est une bonne introduction avant de parler du roc, là où Jésus, où Dieu a écrit dans la pierre. Donc ce que je vous propose avant de passer à l'Exode, c'est de lire dans Jean 8, au verset 1. Donc Jean 8, verset 1. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi, que dis-tu ?» Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc la femme était accusée d'adultère, ce qui semblait être le cas, hein, par un groupe de personnes d'importance, les scribes et les pharisiens. Elle allait être lapidée. Et par les mots que Jésus a écrits par terre, tous les accusateurs sont partis. Ils n'avaient plus rien pour juger la femme, ou bien ils ne se sentaient plus dignes de pouvoir la juger. Et les mots de conclusion de Jésus étaient « Où sont ceux qui t'accusaient ? Puis va et ne pêche plus. » Ce passage est extrêmement symbolique et reflète le combat spirituel. Satan est l'accusateur de nos âmes devant Dieu, tout comme ce groupe de personnes. Jésus apporte la délivrance face au péché et c'est une grâce. On se rappelle du verset de Paul lorsqu'il dit « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Et c'est le symbole qui nous est donné au travers de ce passage. Une fois la libération accomplie et la grâce effectuée et effective, vient l'exhortation à changer de vie. « Va et ne pêche plus ». On ne sait pas ce que Jésus écrit par terre, et c'était sur la terre et pas dans le roc. Mais malgré tout, c'était extrêmement puissant pour convaincre. L'écriture venant de Dieu est donc importante. En dehors de ces mots que l'on ne connaît pas, écrits sur la terre, l'unique parole de Dieu qu'il a directement écrite dans le roc est le passage de l'Exode 20. Le roc est un symbole de solidité, de la résistance dans le temps. Une fois écrit dans le roc, on ne peut plus le changer. C'est immuable, inchangeable, définitif. Il est important de conserver à la suite donc, que Dieu a fait grâce, il a effacé les transgressions de la loi que nous avons commises, donc le péché, lors de la mort et la résurrection de Jésus, pour tous ceux qui croient en lui et le reconnaissent comme Seigneur et Sauveur. C'est pour cela que Jésus a dit à la femme adultère « Où sont ceux qui t'accusaient ? Et va et ne pêche plus. » Pour suivre l'exhortation de Jésus de ne plus pécher, qui s'adresse à nous-mêmes, il faut comprendre ce qu'est le péché. On ne peut pas combattre un ennemi que l'on ne connaît pas ou pas bien. Nous savons que le but de Satan est de nous faire pécher. Il est donc très important de savoir de quoi on parle. Et c'est ce que je vous propose en redécouvrant donc les versets de l'Exode 20. On les connaît bien, hein, c'est les 10 commandements. Et donc, écrit dans le roc, les 10 commandements. Donc, en Exode, au chapitre 20. Donc, ce que je vous propose, c'est de parcourir l'ensemble de ces versets et de les commenter au fur et à mesure. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. » Dieu se présente et il démontre que c'est bien lui qui parle. En rappelant la sortie d'Égypte qui venait de se produire, et ça n'était donc pas très connu à cette époque. Mais lui savait, ainsi que les Israélites. Certains auraient pu se dire que quelqu'un d'autre le savait, alors il précise de la maison d'esclavage, c'est-à-dire la condition où se trouvaient les Israélites esclaves. Il donne deux éléments pour justifier que c'est lui qui parle. Et la combinaison des deux éléments ajoute encore en certitude. C'est Dieu qui parlait. Dans le milieu chrétien, il y a des personnes qui pensent que Dieu parle, d'autres pensent qu'il ne parle pas ou ne parle plus. Personnellement, je pense que Dieu parle encore aujourd'hui, et c'est ce que je peux expérimenter. Et donc dans ce dernier cas, ce verset nous montre que lorsque Dieu parle, il se présente et donne des éléments que c'est bien lui, afin de ne pas être induit en erreur. J'ai malheureusement l'impression d'erreur lorsque j'entends Dieu à parler. Des fois, j'entends ça et on peut se poser des questions. Hein. Mais bon, c'est pas l'objet du message. Donc, je vous propose de continuer et de lire ce premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Donc, au verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Dieu veut être le seul, car il est réellement le seul vrai Dieu et ne veut pas être partagé. C'est pourquoi cette affirmation est la première et peut-être la plus importante. Elle est également la plus attaquée, soit par Satan, comme je viens de le mentionner, soit par l'homme lui-même. L'être humain veut rejeter la position de Dieu. Et c'est ce que nous voyons régulièrement dans les propos de ceux qui le rejettent. Et même sans rejeter Dieu directement, ce commandement étant le premier, place Dieu en premier. Dieu doit être à la première place de nos préoccupations et le motif pour stimuler nos choix. Afin de vérifier que Dieu est à la première place de ma vie, je me pose souvent la question, si Dieu me demande de renoncer à quelque chose, est-ce que cela me posera un problème? Comme par exemple les amis, le travail, le matériel, quoi qu'il en soit, est-ce que ça me pose un problème? Si ça pose un problème, c'est que Dieu n'est pas à la première place. Et donc là, on ouvre une porte au péché, évidemment, puisqu'on ne respecte pas la loi. Dieu est omniprésent, il est partout. C'est pourquoi, lorsqu'il précise dans le verset « devant moi », en fait, il est impossible de lui cacher un autre Dieu qu'on se serait créé. Il est présent partout sur terre. Et donc, on ne pourrait cacher dans un placard, une cave ou je ne sais où un Dieu. Et Et encore plus, il connaît notre cœur. Donc même un Dieu caché dans notre cœur, notre pensée est connue de Dieu. Il n'existe pas d'autre Dieu et il ne faut pas s'en créer. C'est pourquoi le verset 4, qui est le deuxième commandement, précise au verset 4, « Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que terre. » En lisant ce verset, on pense directement à la création, aux animaux, comme le veau d'or, que les Israélites se sont fabriqués dans le désert. Cependant, la première partie du verset parle de sculptures sacrées. Il y a donc deux catégories, les sculptures sacrées, les temples, des choses issues de notre imaginaire ou de Satan, comme des monstres, ou je ne sais trop quoi, et les représentations de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau plus bas que terre. Les créations de Dieu, les animaux, les plantes et les montagnes. On parle donc de ça. Et évidemment, pour certains plus créatifs, on fait des mélanges entre les deux. Cette partie du commandement paraît être évidente et surtout plus d'actualité dans notre monde occidental, matérialiste et rationnel. Mais je pense que c'est de plus en plus d'actualité. Je suis frappé par l'arrivée massive des Bouddhas et autres porte-bonheur. Également dans le mouvement écologique et de préservation de la planète, qui est fondamentalement bien, on voit de façon sous-jacente l'apparition ou le retour au spiritisme, chamanisme et à l'adoration de la nature. Dans ces deux cas, il y a rejet de la position du créateur au profit de la création. Il est donc peut-être nécessaire d'analyser si dans notre vie, il n'y a pas de croyance remettant en question la position de Dieu dans nos vies, nous faisant ainsi pécher. Sachant que le péché ouvre la porte à Satan, lui permettant de nous attaquer, et par la même occasion d'attaquer Dieu lui-même dans sa position. Et la conséquence de ces créations est l'adoration de ces sculptures sacrées, représentations comme le précise le verset 5. Donc au verset 5, « Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Se prosterner et donc adorer ces choses ne plaît pas à Dieu. Il ne l'accepte pas. Ça reviendrait à les remettre au même niveau, voire au-dessus de Dieu. Et les servir, c'est faire des actions ou des choix en fonction de ce qu'elles exigeraient. La forme de la deuxième partie du verset est intéressante. « Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Cette partie précise que Dieu s'adresse à ceux qui l'ont reconnu comme Dieu, donc qui s'adresse à nous. Il est utilisé trois répétitions apportant de la lourdeur, et je pense, afin de marquer l'importance, « Car moi, l'Éternel, ton Dieu. » C'est un peu lourd. Hein. Avec ça, si on n'a pas compris, on ne peut plus rien faire. Il est un Dieu jaloux. Il n'accepte pas de compromis dans sa position, car ça serait remettre en cause la vérité absolue de notre Dieu unique. Et c'est un moyen de combat spirituel qui nous est donné pour maintenir la vérité lorsque Satan nous glisse dans le creux de l'oreille autre chose que ça. La suite du verset, le verset 6, nous donne les conséquences. « Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et respectent mes commandements. » Il est mentionné deux extrêmes. Ceux qui le détestent et ceux qui l'aiment. Entre les deux, il n'est juste rien dit. Mais on constate que la bénédiction de Dieu dure plus longtemps que la punition, démontrant ainsi la grâce de Dieu. Il est utilisé le futur au travers des générations pour mesurer les conséquences et ainsi nous motiver. Qui ne souhaite pas des bénédictions pour ses enfants et les enfants de ses enfants? La motivation est grande de suivre notre Dieu. Le troisième commandement est au verset 7. Donc tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère, car l'Éternel ne le laissera pas impuni, celui qui utilisera son nom à la légère. Ce commandement est peut-être celui que les chrétiens respectent le moins, on ne l'a peut-être pas à l'esprit. Combien de fois on utilise le nom de Dieu pour faire passer ou accepter ses propres idées ou sa propre volonté? où j'attire vivement votre attention sur ce point spécifique. La conséquence de ce comportement est un obstacle au plan de Dieu. Je pense que pour la plupart des cas où j'ai entendu, je serai capable de trouver un verset biblique permettant une justification à sa propre volonté. On peut trouver des versets bibliques justifiant ce qu'on veut. Hein, si on cherche, on peut trouver. Et c'est un obstacle au plan de Dieu, puisqu'au lieu de réellement entrer dans son plan, on crée une autre voie. En plus, nous justifions sur la base de la parole et nous induisons les autres dans notre propre erreur. L'utilisation du nom de Dieu doit se faire avec précaution, car l'utilisation du nom de Dieu à la légère ne restera pas impunie, comme le précise ce verset. Le quatrième commandement, au verset 8 et 11, de 8 à 11, pardon. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Le jour du repos. La première partie du commandement, et comme c'est la première partie, c'est la plus importante, cette première partie est « Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint ». Le jour du repos a donc pour but de se reposer, comme l'indique son nom, mais avant le repos, il faut en faire un jour saint. Ça veut dire quoi un jour saint ? Eh bien, je pense que c'est le jour où on se sanctifie, par exemple. On enlève ce qui n'est pas saint en nous, nos fautes. Ou pour reprendre l'image de Jésus, on se lave les pieds. On a eu l'occasion d'en reparler lors de la Pâque. Et pour nous, chrétiens, enlever ses fautes, c'est revenir à Jésus, à son sacrifice pour nous et à sa résurrection. C'est une des raisons de se retrouver tous à l'église et de prendre la Sainte Cène pour se rappeler et ainsi demander pardon à Dieu pour nos fautes de la semaine. On n'est pas obligé d'attendre le culte pour reconnaître ses fautes, évidemment, et revenir à la croix de Jésus pour demander pardon, mais c'est un garde-fou que l'on ne peut pas manquer. C'est pourquoi, à titre personnel, je pense qu'il est bien de prendre la Sainte Cène tous les dimanches. Le culte personnel, le culte le dimanche est une façon de prendre le jour saint, mais il existe d'autres formes. On peut se retrouver en famille et prendre la Sainte Cène ensemble, ou même tout seul, on peut rendre ce jour saint. Il existe beaucoup de formes possibles. J'aurais juste une recommandation, c'est de commencer ce jour par la sanctification afin que le jour entier soit saint. L'avantage du culte en commun est de développer l'aspect communautaire et ainsi l'encouragement mutuel, fraternel et les témoignages de l'œuvre de Dieu en chacun de nous. Si on continue au verset 9, il est très surprenant que pour introduire le jour du repos, on parle du travail. Pendant 6 jours, tu travailleras, tu feras tout ce que tu dois faire. Il est donc normal pour Dieu de travailler, il ne faut pas se laisser aller à des fables faisant croire que tout ira bien en négligeant le travail. Certes, dans le contexte actuel, il est difficile de trouver du travail, mais je vous encourage à persévérer, à compter sur la grâce de Dieu. Je souhaite préciser que le travail n'est pas simplement le travail professionnel, mais évidemment toute l'activité humaine qu'on peut faire pendant la semaine. Voilà, il y a beaucoup d'autres activités que les activités professionnelles. Au verset 10, il est enfin décrit le jour du repos. Donc le verset 10, « Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. Il est valable pour tous ceux qui sont sous ton autorité. » C'est ce que décrit en fait ce verset. « Il n'est pas dit d'imposer à notre voisin le jour du repos, et encore moins à une nation tout entière. Ce n'est pas ce qui est écrit. On ne force pas les autres à respecter la loi de Dieu, mais on décide par soi-même de la respecter. Je pense que le but de la forme utilisée est de rendre le commandement réalisable. En effet, pour que personnellement je respecte ce commandement, il faut que je puisse l'appliquer et le faire appliquer afin de ne pas pécher. Donc le faire appliquer, c'est pour ceux qui sont sous mon autorité. Et le verset 11 donne l'explication du jour du repos. En effet, en six jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le septième jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Ce verset, à mon avis, est plus compliqué qu'il n'en paraît. Dieu rappelle qu'il a tout créé, il rappelle la séquence qu'il a suivie, six jours de travail, et le septième jour, Dieu s'est reposé. Mais Dieu se pose en exemple, et il nous donne le commandement de suivre cet exemple, et il associe la bénédiction à ceux qui le suivent. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos. Si tu te reposes le septième jour, tu accèdes directement à cette promesse de bénédiction. J'aimerais attirer votre attention également sur le respect du jour du repos. C'est un commandement qui nous est donné. Des fois, on dit, voilà, c'est de ne pas le respecter, c'est un péché. Donc, on pêche quelque part autant à ne pas respecter le jour du repos que pour les autres péchés, que pour voler, par exemple. Des fois, on fait des échelles sur les commandements. Mais le jour du repos est un commandement. Les quatre premiers commandements donnent le détail du commandement que Jésus donnera plus tard dans la parole, aimer Dieu. Donc là, ça explique comment on aime Dieu, ça décrit comment on aime Dieu. Dans les commandements qui suivent, il est question d'aimer son prochain comme soi-même. Donc le cinquième commandement, qui se trouve au verset 12, « Honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Paul dira au sujet de ce commandement que c'est le seul à être associé avec une promesse. À être associé avec une promesse, afin de vivre longtemps. Les difficultés concernant ce commandement me paraissent être à deux niveaux. Pour les enfants, lorsque les parents sont indignes, il est difficile de les honorer. Et pour les parents, il est important de ne pas créer des conditions mauvaises pour les enfants et ainsi provoquer chez eux les conditions provoquant le péché. Donc le sixième commandement se trouve au verset 13. Tu ne commettras pas de meurtre. Celui-là, il nous paraît évident, mais voilà. L'interdiction de tuer, c'est clair, c'est précis et c'est concis, quoi. C'est l'interdiction de tuer. Le septième commandement, tu ne commettras pas d'adultère, également très clair. Le huitième commandement, tu ne commettras pas de vol. Si on aime son prochain, on le vole pas, tout simplement. Le neuvième commandement, tu ne porteras pas de faux témoignage contre son prochain, contre ton prochain. Donc au verset 16. Souvent, ce commandement est compris comme tu ne mentiras pas. Cependant, il est question ici de faux témoignage, qui est certes un mensonge, mais le point est le faux témoignage. Le faux témoignage a pour but d'accuser faussement ou de dénigrer quelqu'un faussement auprès d'une autre personne. Il n'est pas précisé s'il s'agit uniquement du cas du procès. Donc on voit bien l'aspect de justice derrière. Et donc ce qui aurait pour conséquence potentielle, donc l'injustice, c'est donc le rejet de l'autorité. Ou dans le cas du dénigrement, le but est l'abaissement, ridiculiser son prochain, bref, lui faire du mal. Dans tous les cas, les conséquences pour la personne qui le subit sont terribles. C'est malheureusement utilisé aussi dans le milieu chrétien, on l'utilise, c'est un péché. J'ai pu le constater avec des propos soit en face à face, soit dans le dos des personnes. Il est donc important de rappeler qu'il s'agit d'un péché et cette attitude déplaît à Dieu. Le dixième commandement, qui est le dernier, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. La convoitise, c'est désirer ardemment quelque chose qui appartient à autrui. La conséquence est la jalousie qui peut conduire au dénigrement, au vol et à l'adultère. Désirer ardemment revient également à se créer un faux Dieu, une motivation tellement importante qu'elle place Dieu en second. La convoitise ouvre très grand la porte à Satan pour nous manipuler. La convoitise nous met en comparaison les uns avec les autres et conduit notre intercession dans la mauvaise direction avec des prières du type « Donne-moi ça, car un tel là, ça c'est pas une intercession qui soit bonne. » Au lieu d'une prière simple et orientée, et saine et orientée vers nos propres besoins. Dieu pourvoit nos besoins. Dieu ne nous met pas en comparaison les uns avec les autres. Il est intéressant de noter que ce commandement est détaillé et qu'il est illustré d'exemples et concrets. L'ordre et le détail des exemples n'a peut-être pas beaucoup changé entre le temps de Moïse et maintenant. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Je pense qu'il n'y a rien qui a changé. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, son esclave ou sa servante. Alors aujourd'hui, on pourrait utiliser les services dont il dispose, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Son bœuf et son âne, son outil de travail ou son moyen de locomotion. Quoi que ce soit qui lui appartienne. Rien de ce qui appartient à mon prochain ne doit être convoité. Voilà, on a fini avec les 10 commandements, mais je trouve que c'est riche de se les rappeler. Alors on les connaît beaucoup, pour certains vous l'avez étudié à l'école du dimanche, etc. Mais j'avais à cœur de pouvoir les reparcourir. Et je vous propose de finir les quelques versets qui suivent, parce qu'ils donnent l'importance également des commandements qui nous sont donnés. Donc au verset 18, « Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette, et voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait à bonne distance. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous, toi, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, sinon nous mourrions. » Moïse dit au peuple, « N'ayez pas peur, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin de ne pas pécher. » Le peuple restait à bonne distance, mais Moïse s'approcha de la nuée où se trouvait Dieu. Voilà, en conclusion, donc en lisant et en creusant un peu ces 10 commandements, écrits dans le roc, qui ne ressent pas le besoin d'un puissant sauveur pour nous purifier de tout péché. Également, qui se sent digne de juger son prochain, comme la femme adultère par exemple, non, ça appartient à notre Dieu. Ces commandements nous appellent à un puissant changement afin de transformer nos cœurs de pierre pour premièrement y graver dans cette pierre, ces commandements, et ensuite le transformer en cœur de chair. Et c'est la promesse que nous lisons en Jérémie 31, verset 33. Jérémie 31, verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Jésus est notre libérateur et nous permet d'aller et de ne plus pécher, comme la recommandation qu'il a fait à la femme adultère. Personnellement, j'espère que le cœur de chair que Dieu m'a donné ne se retransforme pas en cœur de pierre. C'est le risque que nous courons en tant que chrétiens. Et j'aimerais enfin lire, vraiment comme fin de conclusion, en Jean, au chapitre 2, à partir du verset 1, qui nous réexplique le moyen de la sanctification au travers d'un symbole. Donc en Jean 2, verset 1, « Or le troisième jour, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. » Et il lui clients n'apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui venaient puiser l'eau le savaient bien. Il appela le marié et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier signe miraculeux que fit Jésus. » Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. C'est encore un symbole que Jésus nous donne et c'est le premier miracle après le début de son ministère. L'eau contenue dans les vases de purification, en réalité, ne purifie rien du tout, mais c'est le sang de Jésus symbolisé par le vin qui nous apporte la purification. Et j'aimerais en terminer avec un chant, si vous le voulez bien, qui est « Quel ami fidèle et tendre ». J'aime bien parce qu'il y a un moment, il y a un passage dans ce chant qui dit « Il est sévère en ses exigences ». C'est vrai que ses commandements sont sévères, mais il est riche en son amour. Donc j'aimerais terminer par ce chant. Si vous voulez, vous pouvez vous lever, ça permet de se détendre un petit peu.